Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Orson Welles adore Shakespeare. Il dit ne pas pouvoir vivre sans Shakespeare, avoir besoin de lui. S'il a adapté plusieurs de ses pièces au cinéma, il en reste trois qui vont nous accompagner aujourd'hui. Macbeth, Othello et le prodigieux Falstaff. Et quand on lui demande comment il définit Shakespeare, voici sa réponse.
C'est le plus grand homme dans l'histoire du monde, tout simple. S'il y a le cinéma dans l'époque de Shakespeare, il était le plus grand scénariste. Mais le comédie shakespearien, le tragédie shakespearien, sont tout à fait pour le théâtre de cette époque. Il faut arranger beaucoup. J'avais toujours le point de vue que le cinéma, c'est pas le théâtre, il faut pas la photographier en pièce de théâtre, il faut faire un nouveau chose dans le même esprit comme Verdi avec Othello, Falstaff, qui sont deux des plus grands chefs-d'œuvre dans l'histoire du monde. En mon avis, oui. Falstaff de Verdi et Othello, ils sont pas du tout de Shakespeare. Ben, c'est impossible sans Shakespeare.
Pour tutti,
bonjour Jean-Loup Bourget.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur émérite d'études cinématographiques à l'École normale supérieure, critique à la revue du cinéma Positif. C'est avec vous que nous allons parler de Welles et Shakespeare au cinéma. Welles le disait dans l'archive qui a ouvert cette émission. Bon, Shakespeare, c'est le plus grand homme qui soit dans l'histoire de l'humanité, déjà. Mais ensuite, pourquoi l'adapter? Bah, surtout, faut pas essayer de refaire ce qu'a fait Shakespeare. Faut faire autre chose. Il faut dire d'emblée qu'entre Welles et Shakespeare, c'est une véritable histoire d'amour, c'est une passion même.
C'est une passion qui a accompagné toute la vie d'Orson Welles, très littéralement, c'est-à-dire ça a commencé quand il était enfant. Apparemment, ça n'a quand même pas très bien commencé parce qu'il explique qu'il a appris à lire avec Le songe d'une nuit d'été et que c'était quand même... la barre était un petit peu haute, c'était difficile à escalader. Mais enfin, et d'ailleurs, il n'a jamais mis en scène Le songe d'une nuit d'été. Mais ensuite, il s'est beaucoup intéressé, en particulier aux grandes tragédies comme Macbeth et aux pièces historiques sur l'histoire de l'Angleterre. Et il faut quand même se souvenir que Welles est d'abord et reste pendant toute sa carrière un homme de théâtre. Et donc, c'est assez logique qu'il ait découvert et admiré Shakespeare, en qui il voit, je pense, à la fois un homme de son temps, et aussi, comme le disait Ian Cott, Shakespeare notre contemporain. C'est-à-dire qu'il n'a jamais hésité à mettre en scène Shakespeare en le sortant de l'époque shakespearienne, de l'époque élisabéthaine, ou de l'époque à laquelle les pièces sont censées se dérouler. Il y a des exemples très célèbres, notamment sa mise en scène la plus qu'il a fait connaître immédiatement, sa mise en scène de théâtre, qui est le Macbeth, qu'on appelle le Macbeth vaudou, dont l'action est transposée de l'Écosse primitive à Haïti au XIXe siècle. Et deuxième mise en scène de théâtre également.
Et pardonnez-moi, mais sur cette mise en scène, puisque vous en parlez, la caractéristique principale qui avait fait beaucoup parler de la pièce, c'était que tous les acteurs étaient noirs.
C'est ça, parce que c'était une production financée par les programmes d'aide fédérale à la culture du New Deal, à la Works Progress Administration. Et effectivement, la mise en scène était dans un théâtre de Harlem avec effectivement une distribution entièrement noire. Et c'est évidemment quelque chose qui...
En 1936.
En 1936. Et en 1937, donc un an après, Welles récidive d'une toute autre façon, mais c'est sa deuxième mise en scène de théâtre la plus célèbre. Il monte Jules César, Et Jules César est vu comme une sorte de variante de Mussolini ou d'Hitler, et les conjurés qui complotent pour assassiner le dictateur sont eux-mêmes vus comme des gangsters ou des membres de partis du type fasciste ou nazi, et sont en costume contemporain, comme si cela se passait donc à Nuremberg ou à Rome. D'ailleurs, par rapport à ce qui est arrivé à Mussolini, c'est un petit peu prophétique, puisque finalement, c'est le propre gendre de Mussolini, Ciano, qui a comploté contre son beau-père, mais avec moins de succès dans un premier temps que Brutus face à César.
Et Wells ne se contente pas de jouer Shakespeare ou de le faire jouer, il le publie aussi. Hein. Dès 1934, il propose une certaine édition des textes de Shakespeare destinée aux lycéens.
Tout à fait, tout à fait. Il a travaillé avec un de ses professeurs de lycée et il a publié ses textes. Il a toujours eu l'idée, qui peut paraître absolument évidente, mais que Shakespeare était fait non seulement pour être lu, mais d'abord pour être joué. Et il a eu tendance à protester régulièrement contre la vision purement universitaire de Shakespeare, les spécialistes qui étaient obnubilés par le texte, que voulait dire le texte, est-ce qu'il y avait des interpolations, etc. Alors, il faut dire d'ailleurs que à cet égard, Wells n'a pas non plus un respect sacro-saint pour le texte de Shakespeare qui serait intouchable. Il est dans une tradition de mise en scène de Shakespeare qui n'hésite pas du tout à déplacer des scènes, à déplacer des vers, à attribuer certaines répliques à d'autres personnages que ceux qui sont prévus à l'origine. Et il fait aussi ce qui s'est toujours fait au théâtre, mais des montages. Et le troisième grand film shakespearien, qui est donc Falstaff, Chimes at Midnight, c'est en fait un très ancien projet de Wells qui remonte aux années 30 aussi, qu'il a jamais vraiment réussi à mettre sur pied sur une scène de théâtre, parce que c'était justement très compliqué dans la mesure où il voulait faire une sorte de combinaison de cinq pièces différentes, quatre pièces historiques de Shakespeare. Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, Henri V, Richard II, et en plus un peu des Joyeuses Commères de Windsor. C'est-à-dire toutes les pièces, cinq pièces, dans lesquelles on voyait le personnage de Falstaff. Et il n'a pas réussi vraiment à le condenser pour un spectacle théâtral qui aurait duré un temps raisonnable, disons 2 heures. Et il y a réussi, en revanche, au cinéma, beaucoup plus tard, donc en 1966.
On va y venir, et le résultat est absolument fabuleux. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles, d'ailleurs. On peut se demander, en vous écoutant, Jean-Loup Bourget, mais finalement, pourquoi, justement, a-t-il voulu adapter ses pièces au cinéma, lui qui est un homme de théâtre? Eh bien, voici un élément de réponse. La parole est donc à Orson Welles.
Vous avez été un homme de théâtre.
Pour moi, le théâtre, c'est absolument mort. Pour moi, c'est mort. C'est comme c'est joli blanc dans un autre année, c'est bon.
Et vous ne regrettez pas cette époque où vous étiez un
théâtre? Ah, pour moi, c'était une époque merveilleuse. J'adorais le théâtre et tout ça. J'avais tombé dans le théâtre absolument par hasard, sans vocation. Mais le théâtre, c'est un anachronisme. C'est pas dans notre vie. C'est comme le ballet, l'opéra, c'est très joli, c'est très beau. Mais c'est pas l'art de notre époque.
By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes.
So foul, unfair a day I have not seen.
A drum, Macbeth doth come.
What are these that look not like the inhabitants of the earth and yet are not?
Speak if you can, what are you?
Hail!
What is you do?
Hail! Hail! Hail to thee, Thane of Cawdor! All hail, Macbeth! Thou shalt be king hereafter!
Macbeth, vous allez être roi. Vous aurez peut-être reconnu les sorcières de Macbeth qui ouvrent cette pièce, donc dans la pièce de Shakespeare, ici dans l'adaptation cinématographique qu'Orson Welles en propose en 1948. Il est assez ironique de l'entendre dire que le théâtre n'est plus de son temps, que le théâtre est anachronique, quand on sait que pour ce film, il a répété, je crois, près de 4 mois afin de pouvoir faire un tournage en une vingtaine de jours.
Bon, s'il y a une chose qu'on apprend assez vite quand on fréquente Orson Welles, même de façon posthume, et qu'on écoute ses déclarations, c'est que elles ne sont pas toujours parfaitement fiables. Et il y a certainement un grand paradoxe à dire que le théâtre est mort. Encore une fois, les trois grands films shakespeariens ont été chaque fois précédés, préparés par des mises en scène de théâtre.
C'est ça. Ouais.
Plus ou moins lointainement. Et le Macbeth de 48, qui est chronologiquement le premier film shakespearien de Welles, en est un très bon exemple. C'est parce que effectivement, il a pu réunir une troupe qui n'était pas du tout une troupe permanente, qui était faite un peu de briques et de brocs, ce qui est assez souvent arrivé à Welles, et il a pu la faire jouer dans l'Utah, et c'est également dans l'Utah qu'il a pu faire le film tourner, alors en un temps record, 23 jours de tournage. Welles voulait se faire pardonner ses dépassements précédents, notamment pour son film précédent, La Dame de Shanghai, il avait beaucoup dépassé le temps de tournage. Et là, il veut encore, il a encore l'ambition, l'illusion peut-être qu'il va reprendre une carrière hollywoodienne normale, entre guillemets, et il veut montrer aux producteurs hollywoodiens qu'il est capable de respecter un calendrier et un budget. Cela dit, quand on pense aux grands succès qu'ont été, aux critiques en tout cas, qu'ont été Citizen Kane et puis ensuite La Splendeur des Ambersons.
Donc quelques années avant. Hein,
quelques années avant, là tout de même, Welles est réduit un petit peu à la portion congrue parce qu'il est allé chercher un studio qui s'appelle Republic Pictures, qui est un petit studio qui fait des séries B, des petits westerns, et il tourne, alors il fait en même temps De Nécessité Vertu, c'est-à-dire que il tourne son Macbeth dans les décors en carton-pâte du studio.
Qui sont très apparents d'ailleurs, hein, il ne fait aucun effort
c'est
pour
très
masquer
apparent.
Les décors.
Le château de Macbeth, c'est plutôt comme le château de, enfin comme le lieu de rendez-vous des amants dans Les Hauts de Hurlevent. C'était une espèce de série de pics rocheux qui ressemble vaguement à la ruine d'un château, et à l'intérieur, on a l'impression d'une série de grottes suintantes, pas du tout d'un château, même du haut Moyen Âge.
Mais qui va assez bien avec le propos de la pièce, puisque tout le film est en clair obscur. Avec des noirs très noirs, enfin il y a un contraste qui est très très fort et qui retrace l'itinéraire de ce personnage qui est Macbeth. Donc on peut rappeler l'histoire hein, quand même, les sorcières au début qu'on a entendu lui prédisent qu'il va devenir roi, il veut hâter cette prédiction et sur les conseils de sa femme Lady Macbeth, il va assassiner le roi en place, Duncan, et rongé par la culpabilité, il va concourir à sa propre perte. En quelques mots, on peut résumer les choses ainsi. Et cette culpabilité-là, Welles la filme de manière très intéressante parce que pour lui, il y a un parti pris très clair, c'est que Macbeth serait le jouet, en fait, de forces obscures qui le dépassent. Il serait l'instrument
absolument,
du mal.
Absolument. Et on peut revenir sur l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, l'ouverture, effectivement, avec les trois sœurs fatales, les sorcières qui prédisent à la fois la royauté de Macbeth, mais aussi le fait que, il n'aura pas de descendance, que ce sont les descendants de son compagnon Banquo qui régneront sur l'Écosse. Donc, comme toujours, les prédictions des sorcières, des pitis, etc., sont complètement ambiguës, ce dont Macbeth se rendra compte trop tard, évidemment, et qu'il leur reprochera amèrement, disant qu'elles ont employé un langage à double sens. Mais il est vu, effectivement, comme le jouet, très littéralement, puisque ça, il y a une invention visuelle extraordinaire de Welles, qui est une espèce de petit fétiche, de petite figurine qui est le double de Macbeth, c'est que manipule les sorcières et qui à un moment sera couronnée quand effectivement...
Qui est présent quasiment dès le premier plan, hein,
tout de suite. Dès le début.
On la sort de la boue.
Absolument. Les sorcières modèlent une espèce de petit mannequin d'argile, une espèce de petit de mini-golem qui sera couronné et qui, à la fin, sera décapité. Et alors tout ça, comme on l'a entendu, même si on ne comprend pas l'anglais, on aurait reconnu un accent écossais caricatural auquel Wells tenait beaucoup et qui est l'accent de tous les acteurs, un accent souvent adopté, imité, qui n'est pas la façon naturelle de parler de ces acteurs, dans la version originale de 1948. Le public américain a été tellement décontenancé par ces dialogues plus ou moins incompréhensibles pour lui, que Wells a réenregistré l'ensemble des dialogues dans un anglais, disons, plus accessible. Et une deuxième version, donc, est sortie pour exploitation aux États-Unis.
Mais pourquoi Wells tenait-il à l'accent écossais? Par souci de réalisme?
Parce que Macbeth, c'est censé se passer en Écosse. Et il voulait donner vraiment le sentiment, là, d'un Shakespeare et d'un Macbeth très primitif, très noir. Alors... on voit qu'il y a un personnage inventé aussi par Wells qui est le saint homme, qui est une espèce de, on ne sait pas très bien, de prêtre avec de très curieuses nattes et qui brandit une grande croix celtique. Enfin, alors c'est une croix, donc ce sont des Écossais un peu christianisé, mais tout juste. On est dans un monde très primitif.
Et très caricatural, disons-le quand même. Ce personnage semble être un croquis de bande dessinée, quasiment, avec sa perruque, ses tresses,
oui,
sa croix.
Oui, et ses sourcils d'une voilà. Épaisseur invraisemblable. Et donc tout ça, c'est un ajout de Wells. Et ce personnage qui finit par se mettre du côté des ennemis de Macbeth et à rejoindre le prétendant authentique Malcolm. Macbeth se venge de lui en le transperçant d'un coup de lance avant sa propre mort. Mais tout ça, ce sont des inventions d'Orson Welles.
Qui vont dans le sens de cette thèse, si on peut parler de thèse de Wells, qui serait de dire que Macbeth serait le jouet de force qui le dépasse, même si par ailleurs parfois il dit que non, il est quand même responsable de ses actes. C'est cette thématique-là qui l'intéresse dans cette pièce qu'on identifie souvent à une scène centrale, qui est la folie de Lady Macbeth. Et alors je vous propose qu'on entende à la fois là une interprétation française du texte de Shakespeare, et puis l'extrait de film, parce que là aussi Wells dévie un peu du texte original, il nous montre quelque chose qu'on ne voit pas dans la pièce, écoutez.
Elle paraît naturelle, et pourtant sur ma vie, elle dort. Restez, observez-la.
Où a-t-elle pris ce flambeau?
Elle l'avait auprès d'elle. Par son ordre, on laisse toujours une lumière à son chevet.
Ses yeux sont ouverts.
Mais il ne voit pas.
Que fait-elle? Regardez. Elle frotte ses mains l'une contre l'autre.
Elle le fait chaque fois. On dirait qu'elle lave ses mains.
Hark. There's knocking at the gate. To bed. To bed. Come. 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 Come, give me your hand. What's done cannot be undone. To bed. To bed.
Elle aurait dû attendre pour mourir. Le moment serait toujours venu de prononcer ces mots. demain, et puis demain, et puis demain, glisse à petits pas d'un jour à l'autre, jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous la route de la mort poussiéreuse. Éteins-toi, éteins-toi, brève chandelle. La vie n'est qu'une ombre errante. Un pauvre acteur qui se pavane et s'agite une heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'assister au suicide de Lady Macbeth, qui pétrit de culpabilité, est persuadée de voir apparaître des taches de sang sur ses mains, qu'elle frotte, qu'elle veut se laver, et qui, dans le film de Wells, est conduit donc jusqu'au suicide. Ce hurlement qu'on a entendu précède un saut dans le vide, un saut d'une sorte de falaise. Et le texte que j'ai lu ensuite est un texte vraiment de Shakespeare, qui est adapté par Wells. Et les textes que Wells adapte tels quels sont finalement les plus métaphysiques, sont ceux qui suscitent le plus de réflexion morale par rapport aux gestes des personnages. Jean-Louis Bourget.
Oui, bah c'est de toute façon ce qu'on a entendu en dernier lieu, c'est sans doute la tirade de Macbeth la plus célèbre de la pièce.
Et il faut dire, elle est d'une richesse incroyable.
Bien sûr, bien sûr. Alors, dans le rôle de Lady Macbeth, Jeanette Nolan, actrice américaine de théâtre, inconnue au cinéma, mais qui était l'épouse de John McIntyre, qui était lui-même un acteur de théâtre et de cinéma qu'on voit dans beaucoup de second rôles, de rôles de composition de films hollywoodiens. Et la musique qu'on entend un petit peu, intéressant aussi, musique de Jacques Ibert, d'un compositeur français qui a écrit beaucoup de musique de films, mais c'est une musique d'ambiance qui contraste aussi avec le cri que vous avez décrit, où effectivement on voit en plongée Lady Macbeth qui se précipite du haut de la terrasse du château. Scène très spectaculaire et qui, il y en a un certain nombre de ce genre, qui contraste avec les très nombreuses contre-plongées, c'est-à-dire où on voit souvent en gros plan, de très près, les visages des personnages, comme si on les voyait de bas en haut.
C'est une technique à laquelle Wells a beaucoup recours dans ses films.
Beaucoup recours, y compris dans Falstaff. C'est très frappant. Mais là, avec la situation élevée du château un peu en ruine, mais avec de grandes terrasses, etc. Il y a aussi des plongées. Il y a, par exemple, aussi le meurtre du fils de Macduff, qui est lui aussi précipité du haut d'une des terrasses du château.
Alors, quand Wells lui-même parle de Macbeth et parle de ses autres pièces qu'il a adaptées, on va y venir, il faut qu'on avance, parce que c'est les trois pièces dont on veut parler pourraient faire le lieu d'une émission chacune, mais enfin, l'idée était quand même de voir les points communs qu'il y a entre chacune de ces adaptations. Quand Wells donc parle de Macbeth, parfois il dit que c'est un instrument du mal, parfois il dit que non, enfin, ça l'est, mais d'abord parce que c'est un chrétien. Et il tient à cette dimension christianique de ce film. Vous parlez du personnage qu'il a inventé, qui serait ce prêtre, qui est comme l'incarnation de la transcendance dans cette pièce-là. C'est assez intéressant de voir comment Wells, d'un film à l'autre, retrouve et renoue avec les mêmes problématiques. On a vu hier que, pour lui, un homme digne de ce nom était un homme qui croyait en autre chose que lui-même, que ce soit la loi, l'art ou la morale. Et ici, il a l'air d'intégrer au sein de la pièce de Macbeth la présence d'une forme de transcendance, une croyance en un dieu.
Oui, seulement c'est tout de même très problématique à cause de la présence des sorcières.
C'est ça.
Parce que on a quand même globalement l'impression, qu'on a aussi d'ailleurs chez Shakespeare, que Macbeth est un petit peu un naïf, manipulé par des forces qui elles sont maléfiques, mais qui le dépassent complètement. Et à cet égard, il ressemble assez au personnage précédent qu'a interprété Wells juste avant, c'est-à-dire Michael O'Hara, le pseudo irlandais séduit par la dame de Shanghai et complètement manipulé par le couple maléfique. de Everett Sloan et de Rita Hayworth. Et avec Othello, on va retrouver un personnage shakespearien tragique, puisque Macbeth, Othello, incontestablement, sont d'abord des tragédies. On ne peut pas dire que Macbeth soit vraiment une pièce historique, c'est une tragédie, avec un héros donc aveuglé, oui, par son ambition, par l'ambition de sa femme, qui joue tout de même un rôle décisif dans le déclenchement de la série de meurtres, puisque le meurtre du roi va conduire à toute une série, enfin c'est un vrai carnage, mais il y a quelque chose de mécanique dans cet enchaînement. Et on va retrouver chez Othello, autre personnage tragique, le fait que il est amené à tuer la personne qu'il aime le plus au monde, qui est sa femme Desdémone, et parce qu'il est manipulé lui aussi, à son insu bien sûr, mais il est manipulé par le personnage qui incarne le mal à l'état pur, si j'ose dire, qui est Iago.
Je crois que les forces du mal ne sont pas toutes mauvaises, elles sont l'ancienne religion, le paganisme, l'ambition n'est pas nécessairement un mal, mais sa femme Lady Macbeth représente l'ambition. Macbeth est un assassin parce qu'il a été vaincu. Il est un homme faible, mais quelle est la nature de sa faiblesse? Il n'est pas un géant vaincu, il est un homme malade, et depuis le début. On lui met une idée en tête, il ne l'aurait pas eu car il est tellement stupide. Le grand pas de Shakespeare, ce sont les hommes nobles et lâches, et grandioses et stupides.
There was once in Venice a Moor, Othello, who for his merits in the affairs of war was held in great esteem. It happened that he fell in love with a young and noble lady called Desdemona, who, drawn by his virtue, became equally enamored of him. So it was that since her father was much opposed to the union of Desdemona with a Moor, she fled her house at night, and in secret haste they were married.
Comment oublier cette musique quand on l'a entendue une fois, Jean-Loup Bourget, en 1951, et nous venons d'entendre le prologue d'Othello. Alors, décrivez-nous ce qui apparaît à l'image quand on entend cette musique.
Oui, alors, dans Macbeth, vous l'avez dit, Wells a respecté la chronologie de la pièce. Dans Othello, il procède différemment.
Il commence par la fin.
Il commence par la fin, donc le film sera une sorte de flashback. Et il commence par cette scène muette, mais pas, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue, mais on a entendu, il y a la musique et puis des chœurs. C'est une procession funèbre avec, on ne sait pas très bien, ce sont probablement des moines cagoulés, une sorte d'évêque qui brandit une croix. Et puis les corps morts d'Othello et de Desdémone que Othello a tué, a étranglé, étouffé. Donc cette procession se déploie sur un fond de paysage un peu de plage, de bord de mer, avec une sorte de forteresse. Je crois que c'est une des scènes qui ont été tournées à Mogador, c'est-à-dire Essaouira, au Maroc. Et donc, sont des formes très abstraites, un plan très général, qui contraste éventuellement avec des gros plans sur le visage, par exemple, d'Othello mort. Vu à l'envers sur sa civière. Et puis alors le personnage de Iago, le traître, celui qui a tout manigancé et qui a convaincu Othello à tort que sa femme était infidèle et qu'il devait la tuer, qu'on amène et qu'on met dans une espèce de cage, qu'on suspend et qui est donc le spectateur de cette procession, qui fait vraiment penser, je crois, à Eisenstein.
Oui, le réalisateur Eisenstein. Voilà, c'est vrai que l'esthétique de Wells dans ce film, et même dans Macbeth,
dans Macbeth et dans Othello et dans Falstaff, notamment la bataille de Shrewsbury, je crois qu'il est très clair que Eisenstein, il a beaucoup pratiqué Shakespeare, mais il a aussi certainement bien regardé le cinéma du grand cinéaste soviétique Eisenstein, notamment Alexandre Nevsky et la première partie d'Ivan le Terrible.
C'est ça. Autant dans Macbeth, le thème qui le passionnait, qu'il avait voulu essayer de développer, était celui de l'ambition. L'extrait que j'avais lu avant, qui est un témoignage de Wells lui-même, le donnait à entendre. Hein. Lady Macbeth est une ambitieuse et sans doute sera-t-elle punie pour cela. Autant dans Othello, s'il y a un thème principal, c'est bien celui de la jalousie. Pour le dire rapidement, maintenant que vous nous avez raconté le prologue qui est donc la fin, nous avons ce personnage, donc Othello, qui tombe amoureux de la belle Desdémone, mais qui ne peut pas l'épouser. Iago, qui déteste Othello, va se faire passer pour son ami et va ensuite tout faire pour non seulement rompre leur mariage, mais même les rendre fous, et ce sera d'ailleurs le cas. Et la pièce est formidable pour essayer de déceler les mécanismes même de la jalousie dans le sentiment amoureux, mais aussi dans le sentiment amical. On est au bord de la folie en permanence, parce qu'on se rend compte que dans un tel état de jalousie, on ne peut plus faire confiance à personne. Et pour montrer ça, Wells adopte une technique cinématographique qui est un peu différente de ce qu'il avait fait avant. C'est un montage extrêmement rapide, on est à l'opposé là, de ce qu'il avait fait dans Citizen Kane, par exemple, où il y avait des longs plans séquences. Jean-Luc Bourget.
Oui, mais alors, il faut bien dire qu'il y a une autre explication qui n'exclut pas du tout votre interprétation, mais c'est que...
Beaucoup plus pragmatique, oui.
Bah, le film, contrairement à Othello tourné, contrairement à Macbeth tourné en 23 jours, il a fallu 3 ans pour faire Othello. C'est un tournage absolument rocambolesque. C'est un projet qui démarre immédiatement après Macbeth, en 48, mais là, c'est le début de la carrière complètement aventureuse, errante de Wells, qui n'arrive plus à monter de projets de films, mais qui joue dans un certain nombre de films plus commerciaux, pour gagner un peu d'argent et qui essaye d'investir
avec cet argent,
il essaye de produire ses propres films. Donc c'est d'une complication extraordinaire, mais il a, au bout de 3 ans, il aura effectivement réussi à tourner dans des lieux extrêmement divers. Alors, j'ai parlé du Maroc tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de lieux en Italie, à Rome, Viterbe, enfin plusieurs endroits en Toscane, et il y a aussi des enregistrements qui se passent à Londres, et vraiment Othello est une espèce de marqueterie faite, je veux dire, le montage, on s'en aperçoit que si on est très attentif, mais
On sent qu'il y a un rythme différent quand même.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on le dit souvent, il peut arriver qu'un personnage d'un plan à l'autre dans la même séquence ait été filmé à des mois d'intervalle dans deux endroits qui sont distants de plusieurs centaines de kilomètres.
Voire même que ce soit une doublure. Il dit dans Othello, dès que vous voyez une scène où il y a un personnage de dos avec une capuche, je vais être quasiment sûr que c'est une doublure parce que les comédiens sur 3 ans n'étaient pas disponibles tout le temps. Il a fallu faire appel à des doublures.
Et alors tout ça a peut-être conduit aussi à Wells à adopter un montage plus serré. Et évidemment, les plans séquences étaient à peu près exclus, sauf il y en a quand même quelques-uns. Hein. Mais enfin, il pouvait pas en faire comme il avait pu le faire dans Citizen Kane, par exemple. Et même, par exemple, au fil des années, alors c'est toujours la même Desdémone qu'on voit, mais C'est la troisième actrice à laquelle Wells fait appel, parce que les deux premières ont disparu au fil des retards pris par la production. Celle qui l'utilise finalement, c'est une actrice canadienne, Suzanne Cloutier. Mais en plus, dans certaines versions, parce que ensuite il y a tous les problèmes de mixage, de post-synchronisation, etc. Il la fera doubler par une autre actrice qui avait joué le rôle de Desdemone sur scène.
Et pourtant, le film est regardable. C'est déjà un tour de force, parce qu'il y a même beaucoup plus que ça. Hein.
Non, je trouve que... on peut l'apprécier plus ou moins, mais je trouve que c'est un tour de force, parce que ça montre... comment finalement, avec, comme le dit François Thomas, grand spécialiste d'Orson Welles,
que nous avons reçu lundi dernier.
Voilà, c'est un bricolage avec des bouts de ficelle, mais c'est un bricolage génial. Là, je veux dire, il me semble que Welles donne la mesure d'une forme de génie. Il s'est peut-être lui-même un peu mis dans cette situation. Ça, je suis pas ici pour psychanalyser Orson Welles. Je pense qu'il y a un peu de sa responsabilité à lui. C'est pas un Macbeth ou un Othello. Je pense que il s'est mis dans certaines situations à cause de ses besoins d'argent, à cause de ses innombrables aventures amoureuses. Mais en même temps, on voit comment il avait suffisamment de suite dans les idées. Et d'ingéniosité, d'inventivité, d'imagination pour monter ce film à partir de morceaux qui...
Et puis il va jusqu'au bout alors qu'il y a d'autres projets qu'il a abandonnés. Voilà, il a cette ténacité qu'il loue d'ailleurs chez Iago. Il n'aime pas beaucoup Othello. Il dit que Othello est un personnage lâche, faible, qui aurait pu se réveiller avant, alors que Iago au moins... le traître, enfin, non, justement, est fidèle à lui-même. Iago est celui qui cause le mal, mais il est fidèle. Dès le départ, nous savons que c'est un mauvais et il reste mauvais. Othello, finalement, il fait preuve d'une faiblesse de caractère, nous dit-il.
Peut-être, peut-être.
Ce sont les propos de Welles.
Mais c'est sûr que, en tout cas, Iago annonce la couleur dès le prologue, enfin, après le prologue, dès l'ouverture du film, il explique qu'il est son maître qu'il fait semblant d'aimer, et ça, Welles s'en est expliqué aussi, la motivation de Iago, mais il n'y en a pas. C'est un méchant,
c'est ça,
à l'état pur. Alors, Welles dit, mais évidemment, pour le spectateur moderne, on peut pas être méchant, c'est une sorte de maladie. Alors, j'ai laissé suggérer que soit peut-être Iago est impuissant et donc jaloux, on revient à la jalousie, jaloux d'Othello qui lui a pu épouser, aimer, être aimé de cette très belle femme qui est Desdemone, ou bien il est homosexuel et donc il en veut de façon générale à tous les hétéros et notamment aux femmes.
Voilà, mais ce que Welles aime chez Shakespeare, c'est le fait que celui-ci ne juge pas l'humanité qu'il dépeint, que le bien et le mal ne sont jamais manichéens, qu'il montre que c'est toujours plus compliqué que ça. Et c'est finalement presque une leçon d'éthique que Welles tire de Shakespeare.
Oui, mais enfin, je pense que Iago n'est pas un personnage vraiment ambigu.
Alors, il n'est pas ambigu, si dans la mesure, si on suit Welles lui-même, qui dit certes, c'est un traître et un mauvais, mais il est fidèle à lui-même, ce qui le sauve, ce qui éthiquement est quelque chose de valorisable.
Il est fidèle à sa nature, oui, voilà. comme le scorpion.
Il n'est pas lâche.
Dans la fameuse anecdote de la grenouille et du scorpion.
Alors, on comprend vraiment l'attachement de Welles à Shakespeare dans le dernier film, le 1968, Falstaff, qui est un personnage qu'on trouve dans plusieurs pièces de Shakespeare, qui est en fait beaucoup plus... connu en Angleterre, notamment dans les pays anglo-saxons, qu'en France. En France, on parle peu de Falstaff. Welles décide d'en faire un film qui est, vous l'avez dit en début d'émission, l'assemblage de plusieurs pièces historiques. Et on trouve dans cette pièce-là, dans cette adaptation dont on va entendre un extrait tout de suite, le début, eh bien finalement ce que Welles aime chez Shakespeare, à savoir l'importance du monde pastoral qu'on retrouve dans les tragédies, mais aussi dans les comédies. D'un côté, l'univers pastoral, et de l'autre, le caractère sacré du roi. Écoutez comment Welles en parle, et puis ensuite, on entendra la scène d'ouverture du merveilleux Falstaff.
Shakespeare was a country boy.
Shakespeare était un garçon de la campagne.
He came from a pastoral world.
Qui venait d'un monde pastoral.
And never lost that feeling, I believe.
Et je crois qu'il n'a jamais perdu ce sentiment que la cour était maléfique.
You find that in Hamlet,
Vous trouvez ça dans Hamlet, dans Le Roi Lear, partout, qu'il y a quelque chose de corrompu dans la politique de la cour. Et on peut comprendre ce sentiment si on lit l'histoire de l'Angleterre de cette époque. C'était une idée très réelle pour lui que la corruption était tout autour de la couronne. Mais que la couronne elle-même, quel que soit celui qui la porte, était une sorte de Saint Graal.
Jesus, the days that we have seen. Do you remember since we lay all night in the windmill in St. George's Field?
No more of that, Master Sheriff.
T'was a merry night. Is Jane Nightwork alive?
She lives, Master Sheller.
Doth she hold her own well?
Old. Old, Master Sheller.
Oh, no, she must be old. She cannot choose but be old. Certain she's old, and had Robin Nightwork by old Nightwork before I came to Clement's Inn. Jesus, the days that we have seen. Ah, Sir John, said I well.
We have heard the chimes at midnight, Master Robert Sheller.
That we have, that we have, that we have. In faith, Sir John, we have. Jesus, the days that we have seen.
Jesus, the days that we have seen. Cette première scène de Falstaff est une scène en d'une nostalgie sans limite. Jean-Loup Bourget, on voit ce personnage de Falstaff interprété par un Wells très rond, quasiment énorme, qui est très loin dans la neige et qui s'approche de la caméra, qui vient se mettre devant le feu avec son compagnon avec lequel il se remémore les jours passés, the days that we have seen. Et le regard en arrière qui vient ouvrir le film, on retrouve un peu le procédé d'Othello. On a la fin au début du film et on y entend déjà tout l'univers pastoral dont parlait Wells dans l'archive, d'un côté l'univers pastoral et de l'autre l'importance de la royauté. C'est tout le sujet du film d'ailleurs.
C'est le sujet du film. C'est un film qui est tourné en Espagne, dans des lieux assez divers. C'est moins un patchwork que Othello, mais enfin l'ouverture par exemple avec un paysage enneigé, c'est au Pays Basque espagnol. Après le château qui là pour le coup est un vrai bâtiment de pierre, très beau d'ailleurs, c'est Cardona, c'est du côté de la Catalogne, de l'Aragon, au pied des Pyrénées, avec un véritable donc château médiéval et une église qui pourrait être une cathédrale et qui va symboliser la cour. Donc il y a effectivement l'opposition de deux décors, l'un de pierre, solennel, assez nu, assez beau, mais qui va symboliser effectivement la cour sur laquelle règne à la fois le roi Henri IV et un immense, sans doute le plus grand acteur shakespearien de toute l'histoire moderne, qui est Sir John Gielgud, auquel tout de même Wells a fait appel, ce qui n'est pas un mince hommage de sa part. Et alors, à ce décor de pierre s'oppose le décor, et ce décor solennel, et bien sûr marqué par le christianisme, s'oppose le décor de bois de la taverne, qui est aussi le lieu, bien sûr, de toutes les, non seulement des beuveries, mais des coucheries, le lieu de la débauche, mais qui est vu comme quelque chose de positif.
Mais c'est là où vit Falstaff, surtout.
C'est là que vit Falstaff, c'est là qu'il retrouve son ami. Alors c'est Jeanne Moreau dans un petit rôle, et là encore, c'est pas toujours Jeanne Moreau qu'on voit quand elle est
de dos
ou dans son lit. Mais donc il y a l'opposition de ces deux univers qui sont celui, comme vous l'avez dit, de la cour et puis de ce qu'on appelait la Merry England, la joyeuse Angleterre que symbolise aussi Falstaff. Et bien sûr, l'opposition est aussi du point de vue du personnage qui est le prince Hal, qui va devenir le nouveau roi Henri V, qui est donc le fils du roi anglais Henri IV, joué par Gielgud, et donc c'est le jeune héros de ce montage de pièces qu'est Falstaff, joué par un très bon acteur, très très bel acteur, très beau physique, Keith Dexter, dont le cœur et l'éthique balance entre deux pères, évidemment.
C'est ça l'histoire, en fait. C'est le prince, le fils du roi Henri IV, donc son destin est tout tracé. Mais en même temps, il adore Falstaff, il passe ses journées à être avec lui, à le voir boire du vin. Et donc d'un côté, vous dites les deux pères, c'est exactement ça, le père moral et celui de l'autorité. Et puis de l'autre, au contraire, la voie de la débauche.
Voilà, mais en même temps, c'est là pour le coup, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. D'une part, parce que le père, le roi Henri IV, Gielgud, est en fait à l'origine un usurpateur et un assassin, exactement comme Macbeth, sauf que au fil du temps, mais ça Falstaff joue beaucoup sur le temps plus long, davantage que Macbeth ou Othello, dont l'action est tout de même très ramassée. Là, il y a vraiment le temps historique, et quelqu'un qui était un assassin et un usurpateur, qui s'est transformé en roi légitime, qui habite la fonction, et qui se préoccupe évidemment des fréquentations de son fils, dont il se demande s'il ne va pas être complètement sous l'influence de Falstaff. Alors, qui est vu, vous l'avez dit, interprété par Wells. Alors déjà, bon, là aussi, il y a le temps qui a passé. Wells se rend compte qu'il ne peut plus jouer les héros tragiques à son âge.
Et on découvre qu'il interprète brillamment un personnage, j'ose pas dire comique, parce que c'est quand même un personnage un peu tragique, mais qui fait rire. Wells excelle. C'est presque un de ses meilleurs rôles de ma petite connaissance wellsienne par rapport à la vôtre. J'ai été subjuguée par son jeu dans ce film-là.
Mais c'est-à-dire, c'est aussi la période de sa vie où, je pense, victime, entre guillemets, de son physique, de ce qu'il est devenu physiquement.
Il
en a parfois rajouté aussi, non pas en essayant de se rajeunir, mais au contraire, par le biais du maquillage, et même, moi, j'arrive pas à croire qu'il avait vraiment cette taille-là, on dirait.
Mais cette rondeur est très cinématographique. Mais quand il met une armure, ça devient une barrique luisante. C'est vraiment magnifique. Et son visage avec sa barbe blanche.
C'est magnifique.
C'est troublant.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous pour considérer que c'est un rôle plutôt comique. En même temps, tragique, je ne sais pas. Oui, la fin est tragique.
Le personnage est tragique.
Il y a un côté pathétique aussi, justement, qui est le pathétique du vieillissement, le pathétique de ce personnage quand même qui est aussi un Miles Gloriosus, un fanfaron qui se vante de hauts faits d'armes qu'il n'a absolument pas accomplis, qui prend toujours la fuite face à un ennemi et qui ensuite veut se parer des plumes du paon. Et le traitement que Wells réserve au personnage, même s'il n'en cache pas les défauts, est globalement un traitement de faveur, très indulgent, où il veut montrer, de même qu'il a dit que Shakespeare était le plus grand écrivain ou dramaturge de tous les temps.
Le plus grand homme.
Il dit aussi de Falstaff, c'est le meilleur homme qui ait jamais existé sur Terre.
Il va même jusqu'à dire Falstaff, c'est moi.
Voilà.
C'est le parodie de
Flaubert. Alors ça, je crois qu'il est très clair qu'il y a identification de Wells à son personnage et que c'est aussi la raison pour laquelle le film a généralement été vu de façon, je crois, assez justifiée et plausible comme une sorte de testament de Wells avec donc du pathétique puisque finalement le futur roi Henri IV meurt. Donc, le prince Hal devient roi légitime, il a vaincu ceux qui lui contestaient sa légitimité, qui lui contestaient le pouvoir. Et au moment où Falstaff se dit « Mon ami le prince devient roi, donc je vais être son conseiller le plus proche, je vais continuer à être son compagnon de beuverie et de débauche », le roi, devenu lui aussi le roi, qui a pris l'habit du roi, devient Henri V et renie Falstaff, qui considérait comme une sorte de père de prédilection, de père adoptif préférable au père géniteur.
Eh bien, voici la scène, ce sera la dernière de cette émission Jean Le Bourget.
Wits, know you what 'tis you say.
My king, my Jove, I speak to thee, my heart.
I know thee not, old man. Fall to thy prayers. How ill white hairs become a fool and jester. I have long dreamed of such a kind of man, so surfeit swelled, so old, and so profane. But being awaked, I do despise my dream.
Tâche désormais d'avoir moins de ventre et plus de vertu. Cesse de baffrer. N'oublie pas que le trou qui t'attend est trois fois plus large que pour les autres.
Ah,
ne me réplique pas par une plaisanterie. Tu n'as jamais connu le roi. Vieux bouffon, Dieu le sait. Et le monde entier le saura. Si un jour tu apprends que je suis tel que j'ai été, alors reviens à moi et tu seras de nouveau le pourvoyeur de mes ignominies. Mais jusque-là, je te bannis.
Merci Jean-Loup Bourget, moi je ne vous bannis pas, je vous remercie d'être venu nous parler d'Orson Welles et de Shakespeare aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.
C'est un grand plaisir de vous entendre. Regardez, chers auditeurs, ces trois films, Othello, Macbeth et Falstaff. J'ai un petit faible pour Falstaff, vous l'aurez entendu. Je tiens à préciser que les extraits français que vous avez entendus, qui venaient suivre les extraits des films de Welles, ne sont pas les adaptations françaises des films de Welles, mais bien des pièces de Shakespeare. Et c'est Nicolas Berger, le chargé de réalisation, qui vous a proposé ce montage afin de vous faire profiter du texte, puisqu'on ne pouvait pas tout vous diffuser en version originale. Donc, merci à Nicolas Berger et à Louis Servet qui a abattu un travail colossal pour cette émission. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Quelle est votre actualité du jour ?
Eh bien, il y a quelques semaines, j'évoquais la philosophie d'Émile Zola. Eh bien, aujourd'hui, c'est la philosophie de Michel Léris qui m'intéresse à l'occasion d'un ouvrage collectif paru il y a quelques mois déjà, sous la direction de Denis Ollier et Jean Jamin, intitulé Léris Unlimited. Unlimited, je ne savais pas...
Comme vous voulez.
Comme je veux, très bien. Et à raison, puisque écrivain, poète, critique d'art et ethnologue, de Paris à Dakar, de ses bifures à Zébrage, de la corrida à Francis Bacon, Michel Léris a traversé les terrains et transgressé les limites entre les disciplines, les genres d'écriture et les objets en tout genre, justement, de quoi y déceler, je cite, une philosophie du déménagement. Mais qu'est-ce qu'une telle philosophie, a priori systématique, déterminée, logique? Une philosophie peut-elle déménager? Peut-elle déranger ce qu'elle est censée mettre en ordre?
Savoir pourquoi on écrit quand on commence à le faire, je crois qu'il n'est guère possible de le dire. C'est plutôt un fait que l'on constate. On est pris, tout à coup, on éprouve le besoin d'écrire. Et puis on se met, je ne dirais pas à écrire, mais à essayer d'écrire tant bien que mal, d'exprimer tant bien que mal ce qu'on a sur le cœur et d'en faire quelque chose qui ressemble à de la poésie.
Quand on demande à Michel Léry, c'était Paul Chavas dans La Voix Nue sur France Culture en 1968, pourquoi il l'a écrit, il est, comme on l'a entendu, bien incapable d'y répondre. On écrit parce qu'on écrit, pourrait-on dire. Alors si les choses sont en l'état, si elles occupent une place que l'on ne peut changer ou interroger, qu'est-ce qui peut être déménagé en nous ? Question importante, car déménager, c'est bien déranger, déplacer, c'est remettre en cause et en forme, et d'abord des objets dans l'espace. Alors, comment entendre cette philosophie du déménagement ? Comment l'entendre si on veut l'appliquer à quelqu'un ? Quelqu'un, un sujet, peut-il être déménagé tel un objet ? Eh bien, cette question, elle est en fait d'autant plus importante que cet ouvrage est le fruit d'un colloque et d'une exposition où l'on pouvait découvrir Michel Léry, c'était en 2015, à partir de ses objets. Plus de 850 peintures, sculptures, photographies, entre autres. Et que celui-ci, Michel Léry, dès l'âge d'homme en 1939, s'était pris lui-même pour objet d'étude. Alors, en quoi consiste cette philosophie du déménagement si l'on part du principe que l'on se saisit tel un objet et que notre espace intérieur se constitue d'objets? Comment déménage-t-elle l'homme et quoi en lui?
Now my name is Bricktop. I was raised in a lion's den. My name is Bricktop, raised in a lion's den. And my nightly occupation is stealing other women's men. Cause my hair is curly, teeth are pearls. My hair is curly and my teeth are pearls. And what my mama taught me takes me through the world.
Pour être déménagé, pour cultiver une philosophie du déménagement, encore faut-il s'en donner les moyens, les objets justement, et le jazz en est un. Dans L'âge d'homme, Michel Léry déclare que pour l'époque, le jazz était, je cite, « un signe de ralliement, un étendard orgiaque aux couleurs du moment ». Comme le cite aussi Diane Turchetti dans un des articles de cet ouvrage « Jazz en zigzag ». Orgiaque, dionysiaque, animal, le jazz n'était cependant pas pour Léry seulement ce qui déménage, mais aussi ce qui s'écoute avec sérieux, ce qui nous plonge en nous-mêmes et nous fait sentir, nous rappelle un écart en soi. Et là apparaît cette philosophie du déménagement, selon Léry. C'est bien une philosophie qui fait littéralement bouger, qui nous déplace, mais d'abord qui nous révèle que l'on est déjà déplacé, décalé. Avec Léry, on n'est pas déménagé tel un objet, on est en fait déjà déménagé.
Comment oserais-je me regarder si je ne portais pas soit un masque, soit des lunettes déformantes? Ma vie est plate, plate, plate. Mes yeux seuls y voient des cataclysmes. Au fond, je ne redoute vraiment que deux choses, la mort et la souffrance physique. Des maux de dents m'ont empêché de dormir, je ne pourrais guère en dire autant de mes souffrances morales. Après cette découverte, je devrais bien me suicider, mais c'est la dernière chose que je ferai.
Sentir ce décalage essentiel, c'est exactement l'expérience dont nous fait part à travers ses œuvres Léry et à travers son journal dont on vient d'entendre un extrait lu par Jean-Louis Trintignant. En témoigne donc ce regard sur lui, possible à la seule condition d'être masqué ou déformé. Se regarder soi n'est possible, autrement dit, que dans une vision dérangée, bousculée, déformée, une vision déménagée donc. Et là, eh bien, la philosophie de Léry, sa philosophie du déménagement, que l'on retrouve aussi dans son écriture, dans sa manière de faire hésiter la langue, de chercher ses mots, de raturer, de produire des bifures, comme le rappelle Nathalie Barberger dans un autre article de cet ouvrage. Et cette philosophie n'est pas qu'une écriture, elle pourrait presque être une morale. Pourquoi vouloir ranger l'homme quand il s'agit encore et toujours de le bousculer ?
Merci Géraldine pour cette philosophie du déménagement. Bienvenue, je retiens cette phrase. Hein. Je devrais me suicider, mais c'est la dernière chose que je ferai.
C'est pas mal.
De Michel Léry, c'est une très bonne formule.
Une bonne philosophie aussi. Donc c'est Léry Unlimited de Denis Ollier et Jean Jamin. C'est un ouvrage collectif et c'est paru au CNRS Éditions.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter et télécharger sur le site du Journal de la Philo. Merci à Louis Servet qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Juliette Delperroux qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin déjà de notre série sur Orson Welles. Demain, nous parlerons de Citizen Kane et de la splendeur des Ambersons en compagnie de Marc Serizuelo. D'ici là, pour réécouter cette émission ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie
Vous y trouverez les indications cinématographiques et bibliographiques concernant l'émission du jour. Et vous pourrez aussi la réécouter en ligne si c'est plus simple pour vous. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc pour la suite et fin de cette semaine welsienne. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.